session de théologie, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens, par le Père Philippe Arimond, le 23 octobre 1993, quatrième conférence.
J'espère que vous êtes bien reposé, que votre intelligence est dans un état de fraîcheur merveilleuse. Nous allons aborder un problème difficile, et que je crois très important. Regardez dans saint Thomas la manière dont il traite le problème des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Dans la somme et dans son commentaire de l'évangile de saint Jean. On voit très bien qu'il y a deux attitudes tout à fait différentes. Dans la somme, qui est classique, tout le monde doit avoir lu cette question de la somme. Si on veut avoir un tout petit peu le sens de la théologie de saint Thomas et bien comprendre ce que signifie dans la pensée de saint Thomas cette montée de l'intelligence vers la découverte d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Saint Thomas est très net là-dessus. La conclusion n'est pas « il est nécessaire qu'il existe Dieu ». Il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. On doit être très sensible à ça. L'âme humaine et Dieu nous sont donnés en premier lieu par les traditions religieuses, selon l'ordre génétique. Autrement dit, le nom Dieu, le nom âme spirituelle, âme humaine, nous sont transmises par les traditions religieuses. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Et on doit en tenir compte. Ce ne sont pas des mots philosophiques, des découvertes philosophiques, tandis que le mot substance n'est pas transmis par les traditions religieuses. Le mot être n'est pas transmis par les traditions religieuses. Et aujourd'hui, on est très sensible aux mots, au langage. Et c'est bien, c'est un progrès. Le danger, c'est de s'arrêter là. C'est d'être séduit par le langage, par les mots, par l'écriture. Le langage est un moyen de communication. Si je n'avais pas le langage, je vous regarderais. Je dirais, regardez-moi, et puis vous comprendrez tout ce que je désire vous dire. Et vous ne comprendrez rien du tout. Grâce au langage, on peut communiquer. Mais le langage, on ne s'arrête pas à cela. Les personnes qui s'arrêtent au langage, disent, ah, vous avez dit ça tellement... Absolument en dehors du contexte. Au bout d'un certain temps, d'écouter, soyez intelligente. Comprenez ce que j'ai voulu dire. Et parce que c'est s'arrêter au moyen et ne pas voir la finalité. Le langage est fait pour que nous puissions communiquer ensemble dans la connaissance, dans la contemplation ou dans un effort d'analyse. Alors, Ceci est très important à souligner. Le mot Dieu n'est pas la conclusion de ce qu'on appelle les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Le premier qu'a conclu Dieu, c'est Descartes. Et à partir de là, sont nées toutes les apologétiques. Je prouve que Dieu existe. Je démontre que Dieu existe. Alors on fausse le problème. Saint Thomas a conscience qu'il doit, dans la somme théologique, donner un manuel. Et comme le catéchisme universel que nous venons de recevoir, c'est un manuel pour rappeler ce que beaucoup oublient. C'est la doctrine commune de l'Église à laquelle on se réfère tout le temps. Bien, saint Thomas a conscience que pour la théologie communiquée par les pères, communiquée par les théologiens avant Thomas d'Aquin, est souvent très mal ordonnée. Il a donc un souci d'ordre pour aider les étudiants. C'est un acte de miséricorde de saint Thomas. Pour aider les étudiants. Pour aider ceux qui commencent à faire de la théologie. Ça veut dire que c'est un manuel très intelligent. Il y a des manuels qui ne sont pas très intelligents, qui répètent sans comprendre. Il y a des manuels qui reprennent tout en essayant de mettre en pleine lumière ce que notre intelligence doit saisir. C'est un manuel numéro 1. Bon, il est assez gros. Difficile de mettre ça dans sa poche. Difficile de l'apprendre par cœur. Dans le temps, on l'apprenait par cœur. Chez les Dominicains, on apprenait par cœur la somme théologique de Saint-Thomas. Et on la récitait. Première chose qu'on faisait. Le professeur demandait, hésitez un peu, ça. Parce qu'on savait qu'en apprenant par cœur, il y a des choses qui s'inscrivent en nous. Il y a un danger, c'est de ne plus vivre que de la mémoire. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment on pourrait apprendre par cœur. La somme de en latin, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est que saint Thomas veut faire une œuvre de théologie scientifique, une œuvre de théologie de sagesse. Et le propre du sage, c'est d'ordonner. Donc, mettre en ordre ce que Pierre Lombard, depuis 100 ans, donnait comme grand manuel de théologie, et qui n'était pas du tout en ordre, et qui était une compilation. De temps en temps, ceux qui font de la théologie, lisez Pierre Lombard. C'est dans les sentences. Dans le commentaire de saint Thomas des sentences. Et vous verrez comme c'est un fou. C'est très beau. C'est une série de citations des pères. Très intéressant. Mais c'est un peu un fou. Saint Thomas va mettre de l'ordre là-dedans. Il veut mettre de l'ordre. Oui, ça prouve que c'est un moment où le théologien prend cette attitude de réflexion consciente pour mettre de l'ordre dans cette œuvre d'Église qui est la théologie, la doctrina sacra, la doctrine sacrée, mettre de l'ordre là. Je crois que c'est très important de bien comprendre l'intention de saint Thomas. Préciser exactement ce que c'est que cet effort intellectuel au service de la parole de Dieu, au service de la tradition. et mettre toute son intelligence à ce service-là. Donc, c'est une œuvre chrétienne et intelligente. Et la plus intelligente qui soit. On construit une cathédrale. C'est l'âge des cathédrales. Il y a une cathédrale de la pensée. La cathédrale de la pensée, c'est la somme théologique de saint Thomas. Et si on veut bien comprendre les cathédrales, il faut comprendre tout ce contexte intellectuel de cette époque. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on admire Chartres et on admire très peu la somme théologique de saint Thomas. Saint Thomas est le pauvre comparativement à l'œuvre des architectes de ce temps. Et c'est toujours un peu comme ça, vous voyez. Les œuvres intellectuelles profondes et contemplatives, ça demande un tel effort pour les comprendre que souvent ça passe au bleu. Et qu'on voit les œuvres artistiques, c'est plus visible. Pour faire une théologie scientifique, il faut savoir exactement la relation qui existe entre notre intelligence et le mystère de Dieu. Notre intelligence humaine et l'existé de Dieu. Quel est le lien qui existe entre les deux? Voilà la grande question. Si l'intelligence humaine ne peut rien dire de l'existence de Dieu, que seule la foi peut parler dignement de Dieu, en toute vérité, l'œuvre du croyant, du catholique, ce sera de répéter tout ce qui est dans l'Écriture. En disant, c'est un langage divin, je respecte, et puis c'est tout. Vous comprenez qu'alors, le chrétien va vivre en ghetto. Pour le peuple d'Israël, l'hébreu est une langue divine qu'on ne peut pas traduire. Par le fait même, on vit, les croyants vivent en ghetto. Ceux qui sont à côté de moi ne peuvent rien comprendre. Ils n'ont pas la foi. Du temps de saint Thomas, et saint Thomas le comprend, la foi, loin de diminuer l'intelligence, permet à l'intelligence d'aller jusqu'au bout de son appétit de vérité, de son désir de vérité. La grâce ne supprime pas la nature. La grâce ne détruit pas la nature humaine. Donc, le chrétien doit être plus homme que n'importe quel autre homme. Le croyant doit être plus intelligent à l'égard du mystère de Dieu, à l'égard de l'homme, que n'importe quel autre homme. Ça, c'est donné par la tradition. Et on ne met pas ça en doute. Et donc, le souci de saint Thomas sera au point de départ de cette œuvre, de cette cathédrale intellectuelle que représente la Somme, de voir exactement ce que l'intelligence peut nous dire de Dieu. Parce que si l'intelligence ne peut rien dire de Dieu, je me réfugie dans la foi. Mais le chrétien ne peut pas dire ça. Puisque la tradition des pères de l'Église disent l'inverse. La théologie a commencé par défendre la parole de Dieu en face des païens qui refusaient le mystère, de montrer que le mystère, loin d'être quelque chose d'absurde, est super intelligent. Oui, le mot super, intelligent. Le mot super est toujours dans Denis. C'est très moderne. C'est pour ça que ça va très bien. C'est super intelligent. Et la parole de Dieu, loin d'être quelque chose qui nous condamne à l'obscurité, est au contraire un appel à la lumière, même pour l'intelligence humaine. Ça, je crois que c'est très important de comprendre ça. Parce qu'on n'a plus du tout cette évidence, nous. On n'a plus du tout, à cause du fidéisme de Luther, qui a gagné beaucoup. Paul VI, j'ai entendu qu'une seule audience de Paul VI, mais une audience qui était faite à un petit groupe de théologiens. Paul VI a dit à ces théologiens, rappelez-vous que le fidéisme est actuellement le plus grand mal dans l'Église. Donc le fait de dire l'intelligence humaine qu'on identifie à la raison ne peut rien nous dire de Dieu. Alors à ce moment-là, plus aucun effort intellectuel par rapport à l'essence de Dieu. Et l'effort intellectuel des exégètes sur le mystère de la parole sera le seul. Et c'est le protestantisme qui gagne. Alors, il faut bien comprendre que l'effort de saint Thomas, un peu en prophète, vous savez, il y a quelque chose de prophétique dans saint Thomas. C'est pas un professeur, saint Thomas. C'est un saint. C'est pas tout à fait la même chose. Si tous les professeurs étaient des saints, la théologie serait très belle. Ce serait splendor veritatis. Mais comme tous les professeurs de théologie ne sont pas des saints, ils répètent sans comprendre. La première fois que j'ai écouté les preuves de saint Thomas, pourtant j'étais chez les dominicains, un jeune professeur qui vit encore, donc je ne nomme pas, nous a donné l'épreuve. J'ai dit à la fin du cours, à la fin des quelques cours qu'il donnait sur l'épreuve, mon père, je n'ai rien compris. Expliquez-moi un peu. Alors il a levé les bras au ciel. Je vous ai lu saint Thomas. Je vous ai analysé saint Thomas. Je ne peux pas vous faire mieux. Je dis, mais est-ce que vous comprenez, vous? Alors, il s'est tu. Parce que j'ai posé quelques cols. Sais-tu ? Et alors à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un manque d'intelligence métaphysique. Et j'ai compris qu'il fallait reprendre tout par le point de vue philosophique. Et que la scolastique ne suffisait plus. Parce que la scolastique, c'était une répétition. On apprenait ça par cœur. Et on ne savait pas, parce qu'on apprenait par cœur. Le croyant doit être un témoin. Et aujourd'hui, plus que jamais, après Vatican II, l'ouverture au monde. Le croyant doit être un témoin pour tous ceux qui ne croient pas. Autrement, il n'est pas un vrai chrétien. Dans l'évangile de Jean, c'est très très net. Et tout l'évangile de Jean nous montre Jean témoin de la blessure du cœur, donc témoin de l'amour, et de l'amour dans ce qu'il a d'ultime. Pour être témoin, il faut pouvoir parler le langage des autres. Il faut comprendre leur intelligence. Et donc il faut montrer que l'intelligence, grâce à la foi, et par la foi, peut aller très loin dans le mystère de Dieu, dans le mystère de l'homme. Mais que pour cela, l'intelligence se mettait au secours de la foi. Au secours, et dans quel sens? Pour expliciter la parole de Dieu. Dans un langage humain. Parce que pour nous, Dieu s'est servi du langage des hommes. Si Dieu s'est servi du langage des hommes, c'est pour que nous puissions recevoir sa parole comme la rosée qui fertilise la terre. Que ça remonte vers Dieu avec tout l'effort de notre intelligence. Mettons notre intelligence au service de la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus grand. pourrez pas faire une œuvre plus grande que celle-là. Mettez votre intelligence au service de la parole de Dieu, au service de la foi, pour glorifier Dieu et sauver les hommes, et les aider. Donc, pour qu'il puisse y avoir une théologie scientifique, c'est-à-dire exacte, science subalternée à la science des saints. Donc, une science qui dépend totalement de la foi et de la parole de Dieu et de la tradition de l'Église et donc du magistère actuel de l'Église. Il faut que l'intelligence puisse se mettre au service. Or, si l'intelligence ne peut absolument pas atteindre l'existence de Dieu, l'intelligence ne peut rien comprendre à la parole de Dieu. Il doit se taire. C'est ce que Barthes dit explicitement. Il dit, l'analogie, c'est le diable. Rappelez-vous ça. L'analogie, c'est le diable. Barthes dit ça. Et Barthes a été sûrement un théologien protestant qui a donné un nouvel élan au protestantisme, au point de vue de l'intelligence. Mais pour lui, il faut que l'intelligence se taise. Parce que l'intelligence ne peut rien dire de Dieu. Les catholiques disent et savent que le fidéisme est condamné par l'Église. Donc, il faut faire cet effort si on veut être parfaitement catholique. Et si on veut être témoin, là où on est, de mettre notre intelligence au service de la foi. Donc, le souci de saint Thomas, en théologien, comprenons bien, on a voulu faire des voies de saint Thomas des voies métaphysiques. Eh bien, ça, c'est une grave erreur. C'est au début de la somme théologique. Donc, c'est dans une vision de théologien et de théologien critique qui réfléchit sur l'outil dont il va se servir, comme un bon chirurgien, avant d'opérer, regarde si c'est. Si ça coupe, hein, si les ciseaux sont bons, si tout est bien en ordre, regardez le dentiste. Hein. Parce que s'il prend des outils qui ne vont pas, c'est vous qui en pâtirez. Hein. Ça durera 3 fois plus longtemps et vous fera un mal de chien. Tandis que si au contraire il a des outils qui vont bien, eh bien c'est ça l'effort de saint Thomas. Le grand outil dont le croyant se sert pour faire de la théologie, c'est son intelligence. Et l'intelligence, dans ce qu'elle a de plus parfait, son intelligence, dans ce qu'elle a de plus élaboré, plus je suis intelligent, plus je suis croyant. Les deux ensemble. Ça ne veut pas dire que plus je suis intelligent, je suis plus croyant. Non. Plus je suis intelligent, et plus je suis croyant, plus je suis croyant, et plus je suis intelligent, plus ma théologie sera limpide, sera pénétrante et me permettra de contempler. Le théologien est un contemplatif, puisqu'il parle de Dieu. Et que Dieu, je ne peux en parler qu'en contemplatif. Je ne peux pas analyser Dieu. Mais je me sers de toutes les analyses précédentes au plan philosophique qui ont affiner mon intelligence et qui permettent à mon intelligence de d'être intus legere. C'est comme ça que saint Thomas définit l'intelligence. C'est une très mauvaise explication philologique, mais c'est très intéressant. Intus legere. C'est-à-dire lire de l'intérieur. C'est tout à fait du rigueur. C'est très moderne, vous voyez. Rigueur dit que celui qui est intelligent, il lit de l'intérieur. Celui qui est bête, lit de l'extérieur. Il faut comprendre de l'intérieur. Si on ne comprend pas de l'intérieur, c'est plus l'intelligence. Donc, vous voyez, lire de l'intérieur. Intus legere. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Écriture qu'on ne doit jamais juger selon les apparences. puisque juger selon les apparences, c'est bête. Alors Jésus est poli, alors il dit pas ça. Mais au fond, c'est ça que ça veut dire. Si vous jugez selon les apparences, c'est bête. C'est pas intelligent. C'est l'imagination. Et à partir de là, vous brodez. Tandis que celui qui lit l'intérieur, il rejoint les intentions. Il ne juge plus selon les apparences. Il essaie de comprendre. Oui, c'est très important dans la vie commune. De lire de l'intérieur votre frère. Pas commode. Hein. Et non pas uniquement, oh, celui-là il a une tête intelligente. Ça veut rien dire, une tête intelligente. Si, s'il n'y a pas d'intelligence, s'il a la tête de ses grands-pères, et ses grands-pères étaient très intelligents, et lui, c'est la décadence. Alors il a encore la tête du grand-père, au point de vue de l'atavisme, mais l'intelligence, il n'a rien fait. Au contraire, l'inverse, hein. Il a la tête de son grand-père qui n'était pas ce genre du tout. Complètement gaga. Voilà. Il a une tête de l'atavisme du grand-père, mais il a fait des efforts énormes. Et on a une intelligence merveilleuse qui pousse. Lire de l'intérieur. Alors, l'effort de saint Thomas dans cette question 2, prima pars, question 2, il faut lire et relire cette question. Saint Thomas pose la question, vous allez tout de suite comprendre. Est-ce que l'exister de Dieu est évident pour l'intelligence humaine? Quand je dis Dieu existe, est-ce que c'est évident? Pour l'intelligence humaine, c'est quand même intéressant ça. Et saint Thomas se trouve en face de certains théologiens qui ont dit que l'existence de Dieu était évident. Je pense à saint Anselme. Dire Dieu existe, c'est évident. Vous voyez, tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont donc des imbéciles. Tu es athée, espèce d'imbécile. C'est pas tout à fait la miséricorde. Hein. Parce qu'à ce moment-là, il dira, l'autre répondra, tu es un imbécile, toi, tu restes encore, tu demeures dans la croyance de tes ancêtres. Mais aujourd'hui, mais non, tout ça est dépassé. Saint Thomas répond, Dieu n'est pas évident pour l'intelligence humaine. L'existence de Dieu n'est pas évidente. Pourquoi ? Parce que la signification du mot Dieu n'est pas évidente. C'est pas parce que vous dites le mot Dieu que vous connaissez la signification exacte. Il faut beaucoup de travail pour comprendre la signification du mot Dieu. Ce n'est pas évident. Or, quand saint Thomas dit ça, article 1, de la question 2. Saint Thomas montre bien qu'il est dans une position critique. Le théologien sait que Dieu existe, il le sait par sa foi. Le théologien sait que l'intelligence humaine existe, et il essaie de voir le rapport qui existe entre les deux. Alors, seconde question, est-ce que l'existence de Dieu peut-être démontré. Si c'est pas évident, ce qui est évident est immédiat. Je le connais immédiatement, sans intermédiaire, sans métaxu. Le petit mot métaxu, qui veut dire intermédiaire. Hein. C'est là, ce qui permet d'unir ces deux aspects. L'intelligence humaine, qui est avide d'évidence, qui est avide de vérité. Est-ce que l'existence de Dieu est une vérité immédiate? Non. C'est immédiat pour le croyant. Mais ce n'est pas immédiat pour l'homme. C'est pour ça qu'il y a des traditions religieuses. Vous voyez, les traditions religieuses sont là pour aider. C'est le berceau dans lequel je suis né. Si je suis né dans une famille chrétienne, il y avait un berceau pour mon intelligence, qui était les traditions familiales. Dans la famille, on croit. Oui, on croit. C'est affirmé. Alors, on croit. On est porté par ça. Puis au bout d'un certain temps, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Aujourd'hui, ça vient très vite. Par la télévision, par tout ça, au cœur de la famille. Mais tout ça, c'est des vieilles choses. Cette petite fille de 4 ans qui dit à sa mère, « Maman, quand je quitterai cette boutique ?» À 4 ans, c'est rapide. Parce qu'elle en avait par-dessus la tête de faire des choses qu'elle ne comprenait pas. Et on dit dans la famille, on fait ça. Ah oui, on fait ça, mais qu'est-ce que c'est dans la famille, rapide que je la quitte. Alors vous voyez, l'existence de Dieu n'est pas évident. Ça, c'est une position critique du théologien. Article 2. Est-ce que l'existence de Dieu est démontrable? C'est-à-dire, y a-t-il un métaxu, un intermédiaire, qui me permet de dire Dieu existe? Alors là, saint Thomas fait une distinction capitale. Il y a deux types de démonstrations. Il y a une démonstration parfaite, je pars des principes et je conclue. Il est bien évident que l'existence de Dieu n'est pas une conclusion. Si l'existence de Dieu était une conclusion, je serais au-dessus de Dieu. Je dirais à Dieu, tu as bien de la chance que je prouve que tu existes. Je domine. Et puis il y a une démonstration a posteriori. C'est une petite distinction qu'Aristote a faite et que saint Thomas prend, parce qu'il la trouve juste. La démonstration a posteriori, c'est à partir des effets. Vous êtes sur la route, en auto, vous voyez un grand nuage qui monte vers le ciel. Une grosse fumée, pas un nuage, une fumée énorme. Si vous avez le temps, faites le petit détour, il y a du feu là, il y a un incendie. Par le feu, par le nuage, par la fumée, vous dites, il y a du feu. Démonstration a posteriori. À partir de l'effet, vous concluez la cause. Faites ça constamment. Hein. Vous entrez dans une maison, il n'y a personne. Vous allez à la cuisine, vous voyez des assiettes sales. Vous regardez si c'est sale depuis longtemps. Et si vous voyez, non, c'est pas sale depuis longtemps. Non, ils ont pris leur petit déjeuner ce matin. Vous concluez de l'effet à la cause. Au contraire, vous regardez bien, oh, c'est du moisi. C'est déjà longtemps de ça. Vous regardez, puis vous essayez de voir, oh, cette maison est complètement vide depuis déjà longtemps. Et puis on a quitté comme ça, en laissant tout. Vous êtes un peu fou pour laisser la cuisine de la vaisselle sale et puis partir avec les clés. Ça prouve que c'est un peu désordonné. À partir de là, vous faites toute une enquête. Les policiers font des enquêtes comme ça. On va raconter une histoire pas drôle. Ici, c'est M. Brincard qui m'a raconté ça. C'est pas un secret, donc. Des jeunes entrent dans la cathédrale et trouvent un sac. Ils regardent. C'était midi moins le quart. L'heure exacte. Qu'est-ce qu'ils voient? Deux bombes dedans. Hein, qu'est-ce que vous auriez fait, ça? Dans la cathédrale, deux bombes. Alors, avec leur innocence, parce que sans doute qu'ils priaient, avec leur innocence, ils prennent ce sac de bombes, où il y avait deux bombes, et puis ils le portent à la police. La police du Puy téléphone immédiatement à la police de Lyon. Un hélicoptère arrive avec deux spécialistes des bombes. Il regarde, et ce spécialiste regarde en dit, il y a un miracle. Ces bombes auraient dû éclaté dans les mains de ces deux jeunes qui l'ont pris. À la protection de la Vierge Marie. Hein? Et c'est lui qui a dit ça. Il y a un miracle. Ça ne se comprend absolument pas. Ces bombes devaient éclater à 2h30 et ces bombes, selon les appareils qui étaient, devaient éclater dès que quelqu'un aurait touché le sac. Protection de la Vierge Marie du puits. Et Monseigneur Brancard m'a dit, j'ai chanté mon Magnificat en disant, Seigneur, merci, merci d'avoir été là, d'avoir protégé ces deux et puis d'avoir retiré ces bons maintenant. Oui, le latran, le puits, troisième, je sais pas qui. Des bombes dans une cathédrale. Des bombes incendiaires. Qui auraient éclaté. Je vais sauter. C'est pas vieux ça, hein, c'est. Il n'y en a pas ici, je crois pas. Regardez tout attentivement. Hein, comme en Afrique, on regarde s'il n'y a pas de serpent dans un lieu où on est. Regarde tout de suite, il n'y a pas de serpent. Là, on peut s'installer tranquillement. N'est-ce pas ? Et bien, vous, regardez tout de suite, il n'y a pas de bombe. Un sac, un vieux sac caché là. Et faites attention, hein, ne les prenez pas. Parce que il faut être prudent, même si on est plein de dévotion. Donc, saint Thomas dit démonstration a posteriori. À partir des éléphants. Et saint Thomas note que cette démonstration est une démonstration imparfaite, qui n'est pas rigoureusement scientifique. C'est une découverte. Ce n'est pas une conclusion qu'on découvre, c'est une source. Je découvre la source de la fumée. Je découvre la source de l'assiette sale. Je découvre la source, le policier, de celui qui a déposé ses bombes. Alors on fait enquête. Une enquête, c'est une démonstration a posteriori. Et celui qui a un tout petit peu de gingin découvre tout de suite. Celui qui n'en a pas, il découvre jamais. Démonstration a posteriori. Qui réclame une intelligence, je ne dis pas inventive, mais une intelligence qui cherche, qui se pose l'interrogation. Existe-t-il un être premier ? Et une interrogation qui nous prend et qui nous mobilise, et qui fait qu'on fait des kilomètres pour découvrir la source. Alors, cette démonstration a posteriori, Descartes dira qu'il cherche une démonstration a priori de Dieu. Modo geometrico. Oui, ce cher Descartes, hein, il se met le doigt dans l'œil. Et là, il s'oppose complètement à Thomas d'Aquin. Complètement. Il s'oppose à Aristote et à Thomas d'Aquin. Il le dit explicitement pour Aristote, pas pour Thomas d'Aquin. Mais celui qui connaît sait que la démonstration que donne Descartes est fausse. Il veut une démonstration a priori de Dieu. Et ça, à partir de Descartes, il y a eu toute l'apologétique qui a faussé complètement le problème. Celui qui découvre Dieu, c'est un chercheur. Il cherche la source. Démonstration appris a posteriori. Et l'article 3 nous donne les cinq voies. Alors, les cinq voies. J'ai pas le temps de vous lire. Du reste, il vaut mieux pas lire. Il vaut mieux essayer soi-même de redécouvrir. Les cinq voies de saint Thomas. Saint Thomas nous donne comme cinq pistes. Prenez l'image, parce que ça vous aidera. Dans une forêt, dans une grande forêt, il y a des allées. Hein? On découvre. En allemand, c'est très vrai. Lichtung, c'est Heidegger, joue là-dessus. L'allée. Lichtung qui conduit à la lumière. Si Dieu existe, il est lumière. Si Dieu existe, il est la source de toute lumière, de tout être, de toute intelligence, de toute vie. Il est premier, source de tout. Et donc, on cherche, il faut être sourcier, vous voyez. Du côté de l'intelligence, on cherche. Et saint Thomas, en regardant, alors ça, il faut bien voir, toute la grande tradition, rejette automatiquement, avec de façon farouche, toutes les démonstrations qui partent uniquement d'une expérience interne. Ça, c'était le génie de saint Thomas. Démonstration interne, c'est ce que fait Descartes. Il part de l'idée. Moi, j'ai l'idée d'infini. Alors, mon voisin peut dire, moi, je l'ai pas. Parce que je ne l'ai pas, donc si je démontre l'existence de Dieu par l'infini et que je dis que j'ai l'idée d'infini, c'est pour moi, c'est tout. C'est pas une démonstration. C'est pas objectif. C'est purement subjectif. J'ai le sentiment que Dieu existe. Très bien. Vous avez bien des chances. Mais ça ne prouve pas que Dieu existe. J'ai la nostalgie que Dieu existe. Très bien. Vivez de cette nostalgie. C'est très très bien, puisque c'est une nostalgie d'une réalité qui existe, alors très bien, ayez cette nostalgie. Toutes ces preuves psychologiques qui se basent sur des sentiments, il ne faut pas vouloir les supprimer, laisser le somnambule vivre somnambule, il ne faut pas le réveiller trop vite. Parce que quand il est sur le toit et que vous le réveillez, il dégringole. Il ne faut pas le réveiller. Surtout pas vous voyez un somnambule la nuit qui est sur le toit. Vous prenez votre carabine et vous tirez pas sur lui, mais à côté. Alors, il se réveille devant le bruit. Il est sûr de faire une chute. Il faut jamais réveiller un somnambule. Il y a des quantités de somnambules dans le monde. Ils vivent de mythes. Mais ne les réveillez pas. Vous ferez une catastrophe. Mais mettez-vous derrière eux et marchez à leur pas. Et au bon moment où ils vont dégringoler, prenez-les. Je te tiens. Tu vois, si j'avais pas été là, tu aurais dégringolé. Donc vous êtes un sauveur. À partir de là, il y a quelque chose de merveilleux. C'est comme ça que vous devez faire, hein, quand vous rencontrez un somnambule qui dit « Je suis athée ». Somnambule. Somnambule de la lumière. Il y en a combien ? Il y en a combien de somnambules ? On vit au milieu de somnambules. Ah, c'est ennuyeux quand ils sont au point de vue politique et qu'ils donnent des lois de somnambules. Parce que les lois de somnambules, ça amène la catastrophe. Ça, c'est évident. On vit un monde de somnambules. Ça, au point de vue de l'intelligence. Hein. Parce qu'on dit Dieu n'existe pas. Mais dire que Dieu n'existe pas, c'est être somnambule. Parce que celui qui serait honnête pourrait dire simplement « Je n'ai jamais rencontré Dieu. Et mon intelligence n'a jamais touché Dieu. Mais Dieu, je ne sais pas c'est qui. » Puisque vous ne savez pas c'est qui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. Il faut toujours coincer intellectuellement celui qui dit « Dieu n'existe pas. » Mais vous ne savez pas qui est Dieu. Puisque vous ne savez pas, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. Est-ce que vous avez le droit de dire qu'un martien n'existe pas? Vous ne savez pas c'est qui. J'en ai jamais rencontré. Voilà ce que je peux dire. Donc il me semble bien qu'il n'existe pas. Tu vois, moi. Mais si tout le monde dit, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y a des témoins qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Et des témoins qui ne sont pas des imbéciles. Ils ont rencontré Dieu. Et ils vivent de Dieu. Le témoignage de tous les chrétiens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu. Et que Dieu, c'est une réalité. Au milieu des somnambules, vous voyez, il y a des poteaux indicateurs vers Dieu. Le chrétien, c'est un poteau indicateur vers Dieu. Je marche vers Dieu. C'est beaucoup plus qu'un poteau indicateur. Poteau, il vit du mystère de Dieu. Tout ça, c'est des preuves intérieures. C'est très beau, c'est très grand. Mais ce n'est pas l'intelligence. Saint Thomas dit, notre intelligence est faite pour Dieu. Et donc, tant que notre intelligence n'a pas découvert Dieu, elle est errante. Somnambule. parce que l'intelligence est capax dei. Elle est capable de découvrir Dieu. Alors, saint Thomas donne les cinq voies. Les cinq voies. Il y a cinq points de départ. Le point de départ n'est pas l'expérience interne. Saint Thomas laisse tomber ça. Même saint Anselme. Il laisse tomber saint Anselme. Et il n'en dit pas un seul mot dans les cinq voies. Pauvre saint Anselme. Dans le ciel, il a dû dire, Thomas a raison. C'est vrai, ce que j'ai dit n'est pas juste. J'en suis sûr. Ils se sont embrassés au ciel. Mais saint Thomas est raide, hein, pour saint Anselme. Ce qui est très curieux, c'est qu'en Sorbonne, on vénère saint Anselme et on rejette Thomas d'Aquin. En Sorbonne, dans l'université française, saint Anselme n'y est toujours pas. Chose de grand. L'abbaye du Bec. C'est quelque chose de très grand. Mais Thomas d'Aquin, non, non, non. C'est naïf. C'est naïf. Parce que Thomas d'Aquin montre que je ne peux découvrir Dieu qu'à partir de la réalité existante. De telle exister. Pourquoi? Parce que pour Thomas d'Aquin, il l'a montré dans le DNT Essentia. Et Gilson, il y a un premier Gilson qui dit que c'est la meilleure preuve d'existence de Dieu. Et après, second Gilson, il s'est converti. Il dit que c'est pas une preuve d'existence de Dieu. Mais c'est un point de vue critique qui montre que je ne peux remonter à Dieu que par l'exister. L'effet. Quelle est la marque du Créateur en vous? Quelle est...
Session de théologie, le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens par le Père Philippe à Rimont, le 23 octobre 1993, 5e conférence.
Si vous voulez plus de détails, parce que c'est quand même important, vous pourrez donc dans ce livre, topic 2 de Lettre à Dieu, que j'ai écrit pour les étudiants, donc pour vous, ce que j'ai dit à propos de la somme théologique de saint Thomas, sur les voies. On ne perd pas son temps à lire ces cinq voies et puis à regarder le commentaire de l'évangile de saint Jean comme il est lui-même traduit puisque c'est au point de départ. Vous verrez tout de suite la très grande différence. Ce serait très intéressant de voir combien dans la somme saint Thomas est dans un aspect critique. On en a fait un point de vue parce qu'on a oublié les deux premiers articles. On a sorti le troisième. Or, tout le monde sait que l'unité, c'est la question. C'est pas les articles. C'est la question. Mais c'est comme aujourd'hui quand on vous sert, vous savez, 50 pattes de poulet. Qu'est-ce que ce poulet 50 pattes? Il y avait des vers à 1000 pattes dans mon temps, hein, voyez, sans voir la tête et tout le reste. C'est exactement comme ça. Alors on retire l'article 3 et dans l'article 3 il y a 5 voies et on fait des thèses sur une voie. On n'y comprend rien parce que c'est une partie, c'est pas le tout. Pour comprendre l'article 3, il faut regarder les deux autres. D'autres difficultés dérigolent. On voit tout de suite que c'est l'intelligence face à l'existence de Dieu et on essaie de comprendre le lien. Et quel est le lien qui existe entre les deux? Mais ce n'est pas une recherche philosophique voir comment l'intelligence humaine découvre l'existence de Dieu. C'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Tandis que dans le commentaire de saint Jean, saint Thomas montre les différentes manières dont, de fait, on a découvert l'existence de Dieu. Or, ce que saint Thomas dit dans le commentaire de saint Jean, personne n'en parle. Pour connaître vraiment saint Thomas, il faut lire son commentaire de l'évangile de saint Jean. C'est là où on découvre toute la théologie mystique présente dans saint Thomas. Beaucoup plus que dans la Somme. Dans la Somme, on trouve le professeur. Pas drôle. Tandis que dans son commentaire sur saint Jean, on trouve le saint. On trouve celui qui médite l'évangile de Jean. Et celui qui nous montre avec très grande largeur toutes les grandes voies qui ont existé pour l'existence de Dieu. Donc, je ne peux pas le faire avec vous, je regrette beaucoup, parce que c'est très très intéressant de faire ça. Alors, je mets l'eau à la bouche, ça peut. Je reviens un instant pour que nous puissions au moins regarder comment la première voie qui, au dire de Kant, est la plus claire, la plus lumineuse. Et après avoir fait ça, Kant la renverse d'un seul coup. Mais Kant n'a pas lu Thomas d'Aquin. C'est évident. Kant n'est pas très intelligent, vous savez. C'est un petit professeur qui aimait beaucoup son chien. Alors c'était un petit professeur. Pas plus que ça. Et je crois qu'à la fin de sa vie, il était persuadé que son enseignement, c'était pas ce qu'il fallait dire. Mais le coup était fait. Alors il fallait garder. C'est la chose terrible des professeurs, c'est qu'ils n'évoluent pas. Ils ne changent pas, ils ont leur cours. Alors ils le lisent. C'est pas commode de continuer de penser quand on est professeur. Alors qu'il faudrait être absolument libre de son cours pour penser tout le temps et progresser par le fait même, surtout pour des sujets comme ça qui réclament toute une intelligence philosophique. Alors voilà la première voie, je vous la lis rapidement. La première voie, celle que saint Thomas qualifie la plus manifeste, et Kant dira la même chose. Nous constatons dans notre univers, je glose un tout petit peu saint Thomas, mais c'est l'essentiel. Nous constatons dans notre univers que les réalités sont mues. Il existe des réalités mues. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Vous-même, vous êtes mues. Fais tomber ça. Pas la peine de la casser. Laissez tomber. Ça tombe. Cette réalité lacrée est mue. Curieux, elle est mue, elle dégringole toute seule. Ou peux-je peux la mouvoir comme ça? Alors est-ce que la preuve d'existence de Dieu, c'est la réalité qui est mue comme ça, ou la réalité qui est mue comme ça? Eh bien les philosophes ont répété que c'était mue comme ça, alors que c'est mue comme ça. C'est pas la même chose, voyez. Là il y a un mouvement naturel. Et d'autre côté, il y a un mouvement artificiel. Si vous voyez la craie qui toute seule se mettait à mouvoir comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Tandis que quand la craie dégringole, c'est naturel. On ne part pas du mouvement artificiel. L'artificiel ne peut pas nous prouver l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est artificiel est petit-fils ou arrière-petit-fils. Ou arrière-arrière-petit-fils de Dieu. Entre le mouvement artificiel et Dieu, il y a l'homme qui prend toute la place. Il y a l'homme. Vous voyez l'horizontale et la verticale. verticale, c'est naturel. L'horizontale, non. Donc la verticale seule remonte à Dieu. Ça va très loin, c'est ça. Constatation bête. Hein. L'horizontale, c'est l'homme. Et l'homme, quand il fait quelque chose, il se montre. Et il aime de cacher Dieu. Le mouvement artificiel ne montre pas directement Dieu. Tandis que le mouvement naturel, oui, il existe. Il existe des êtres mus. Eh bien, l'existence des êtres mus suffit, si j'en ai l'expérience, à prouver qu'il existe nécessairement un être au-delà de tout mouvement. Et c'est très simple à comprendre. Puisque le mouvement n'est jamais premier. Donc, il n'y a pas de premier dans le mouvement. Et ce mouvement existe. Alors, d'où vient qu'il existe? Il existe nécessairement d'une cause qui est au-delà de tout mouvement. Et ça te donne tout simplement le principe. Tout ce qui est mu est mu par un autre. Alors, tout ce qui est mu est par un autre, il faut se demander, est-ce une cause? Non. C'est un principe. Est-ce que c'est vraiment un principe propre de la philosophie naturelle? Non. C'est un axiome. Au point de vue de l'intelligibilité, tout ce qui est mu par un autre, vous ne pouvez pas penser un être mu qui soit mu par lui-même. Pourquoi? Parce que ce qui est mu est nécessairement en puissance. Autrement, il ne serait pas mu. S'il est en puissance, ben, il peut être mu que par un autre qui est en acte. Vous voyez? C'est bien le principe. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors, à la place de regarder tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte, c'est-à-dire le principe de finalité, on a pris le principe de causalité. Je suis cause efficiente de ce mouvement de la craie. C'est bien évident, mais c'est un mouvement artificiel. Pourquoi la craie dégringote-t-elle naturellement? Est-ce que c'est la causalité efficiente? Non. C'est l'attraction du centre de la Terre, mouvement de gravité, c'est final. C'est la finalité. Tout ce qui est mu par un autre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mu est en puissance. S'il est en puissance, il dépend de l'acte. L'autre, s'il est mu, il est mu par un autre. Alors on ne peut pas aller à l'infini, dans l'ordre des causes, ordonnées, qui est encore un axiome de critique. On ne peut pas aller à l'infini dans l'ordre des causes. Donc, il y a un premier qui n'est pas mu. C'est pour ça que c'est extraordinaire. La craie qui dégringole, mouvement naturel, manifeste l'existence de Dieu. Tout ce qui est mu crie, voyez ce que je veux dire, crie, les gémissements inénarrables, crie que Dieu existe. Ça, il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Mais c'est très vrai. Alors, premièrement, on regarde ce qui est mu. Tout le monde. On regarde le vivant. On regarde l'être possible et l'être en acte. On regarde le plus et le moins au point de vue de la qualité, et on regarde la finalité naturelle. Les cinq expériences que je peux avoir du principe de causalité finale. Principe de causalité finale avec la cause matérielle, avec la cause efficiente, avec la cause formelle, avec la cause exemplaire. Et puis, la causalité finale présente en elle-même. Il n'y a pas possibilité d'avoir plus que 5 voies. Parce que toutes les voies impliquent la causalité finale. Et la causalité finale peut être prise pour elle-même et liée aux autres causalités. Vous voyez, ça c'est génial d'avoir découvert ça. Évidemment, Saint Thomas aurait pu mettre un nota bene pour les esprits un peu moins intelligents que lui, qu'ils comprennent. Saint Thomas l'a pas fait, alors tous les épigones thomistes ont gratté. Je dis c'est ça, pas du tout, ils n'ont pas vu du tout. Que c'était la causalité finale qui était la verticale, qui me permettait de l'effet demander directement à Dieu. Parce que la signature de Dieu, c'est pas le mouvement. Le mouvement ne provient pas directement de Dieu. Ce que Dieu crée, c'est des êtres qui existent. Et ces êtres qui existent sont mus. Pourquoi sont-elles mus? Parce qu'elles sont imparfaites. Alors elles sont mues. Mouvement tout à fait matériel, physique. Mouvement vital. Et le mouvement de la génération montre qu'il y a en nous une capacité à la corruptibilité. Je suis un être corruptible. Regardez-moi bien, parce que ça va changer. D'où la photographie. Je suis un être corruptible. Dans un certain nombre d'années, il n'y aura plus que de la poussière. Visible. Je suis un être corruptible. Mais notre temps, on avait tous les vendredis une méditation sur la mort avec un crâne. Je suis un être corruptible, je serais comme ça. C'est pas si vieux, hein. Au milieu du siècle, en 1930, méditation avec un crâne. Tous les vendredis. Là, au bout d'un certain temps, on en a soupé. Parce que c'est bon de penser qu'on est un être corruptible qui dépend directement de Dieu dans son exister. Mon âme est créée par Dieu. Elle est créée actuellement. Puisque l'acte créateur de Dieu est éternel. Donc il est actuel. Et ceci me permet de remonter directement à Dieu. Puis après, c'est les qualités de plus et de moins. Il y a des êtres plus ou moins intelligents, plus ou moins affectueux, plus ou moins bons. Ce plus et le moins montre que toutes les qualités sont participées, donc elles viennent d'un autre. Mais on dépasse le mouvement. On prend le mouvement dans ce qu'il y a de plus radical, physique, le mouvement du vivant, la génération, ah, le plus et le moins des qualités. Et puis, la finalité naturelle qui fait poser un être intelligent premier. Quand vous regardez aujourd'hui toute étude qu'on fait sur l'embryon, extraordinaire. Et ça me touche parce que j'étais comme ça. On aurait pu me regarder comme ça, dire j'étais dans cet état-là, moi. Donc ça me touche. C'est quelque chose qui m'intéresse. Cet embryon. Cet embryon qui progresse selon une manière organique. Sauf quand on le touche. Alors à ce moment-là, on fait quelque chose de particulier. Je me souviens quand j'étudiais l'évolution. J'allais voir à Fribourg, c'était facile puisqu'on habitait proche, un très jeune professeur de biologie qui était de Strasbourg, protestant. Je lui disais, qu'est-ce que vous étudiez spécialement? Oh, j'étudie l'aspect génétique de l'oiseau, la formation du cerveau de l'oiseau. Dans l'écriture, il est dit qu'Éphraïm est comme une colombe, un cerveau avec une toute petite intelligence. C'est extraordinaire, ça. obsédé dans l'écriture. J'étudie les oiseaux et la formation du crâne de l'oiseau et du cerveau de la fleur. Il arrive à dire, chaque fois que j'interviens, je fais un monstre. Je dis merci, j'ai compris. Et plus j'avance, plus je suis en admiration devant ce cerveau qui se développe, devant l'embryon qui se développe, devant le premier moment. Je vois que tout vient d'intérieur. Il faut quelqu'un qui ait pensé à ça. Parce qu'il y a un ordre. Et l'ordre ne sort pas de la matière. Il sort de l'intelligence. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Il y a un ordre. Il m'a dit, je comprends pas comment tous les biologistes ne sont pas à genoux devant le développement d'embryons. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire. C'est l'ordre de la nature qui fait appel à une première intelligence. Une intelligence subsistante, puisque c'est un ordre interne, immanent. Il faut une intelligence immanente. Présente à ce développement et qui fait appel à Dieu. Donc, les cinq voies de saint Thomas sont toujours actuelles, mais au niveau théologique critique. Nous devons nous, alors c'est là où je crois qu'il faut être très attentif, nous devons nous reprendre au plan philosophique, comment approcher de l'existence d'être premier. Reprendre une philosophie réaliste qui indique comment l'homme, à partir de l'expérience, de mes grandes expériences, de mes expériences type, remonte jusqu'à l'exister de Dieu. Alors, avant de dire ça, je vous raconte un petit événement. Bon, que vous compreniez bien. Il y a quelques années, j'enseignais encore à Fribourg, j'allais régulièrement au Carmel de Limoges. La mère supérieure me dit, ça vous dérange pas, mon père, de prendre votre repas avec cinq prêtres ouvriers. Ils viennent ici, toutes les semaines, prendre un repas chez nous. Alors je dis, au contraire, je suis très heureux. Alors je me trouve en habit dominicain, eux, dans leur tenue de travail. Évidemment, la question, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, oh, je suis professeur de philosophie à l'université de Fribourg. Je dis, quelle philosophie enseignez-vous ? Alors, là-dessus, d'avoir une question comme ça dont on sait très bien le piège. Je dis, mais quoi, pour vous, il y a plusieurs philosophies. Pour moi, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule philosophie, la recherche de la vérité. Si je ne recherche plus la vérité, je ne suis plus un philosophe. Il n'y a qu'une seule philosophie. Vous connaissez plusieurs philosophies, dites-moi un peu. Quelles sont les philosophies que vous connaissez ? Oh, nous ne sommes prêtres ouvriers, on ne s'en occupe pas, tout ça. Mais quand même, vous avez réfléchi avant d'être prêtre ouvrier. Hein, vous avez réfléchi. Et vous avez voulu être prêtre ouvrier pour connaître l'ouvrier. Hein. Mais vous ne le connaissez pas très bien. Parce que vous oubliez de connaître l'homme. Et moi, je suis philosophe pour connaître l'homme. Vous ne savez pas ce que c'est que l'ouvrier si vous ne connaissez pas l'homme. Il y a des pincées, là. Et toute ma philosophie, c'est pour connaître l'homme. Parce que je ne peux pas connaître l'ouvrier si je ne connais pas l'homme. Puis j'ai insisté. J'ai dit, ma philosophie, elle part de l'expérience. Puis j'ai commencé à leur faire un cours de philosophie. Quelle est la grande expérience de l'homme ? Le travail. Hein, vous êtes d'accord ? Le travail. Il faut réfléchir sur le travail. Puis, vous êtes copains entre vous. L'amour d'amitié, hein? Vous savez ce que c'est? Puis, vous vous réunissez ensemble ici, donc certaines coopération et solidarité entre vous, hein, pour former une petite communauté, la communauté des prêtres ouvriers, parce que les autres ne travaillent pas, tandis que vous, vous travaillez. Je les ai asticotés comme ça, vous un certain temps là, il dit, mais ça doit être bien intéressant une philosophie comme celle-là. Je dis, mais je comprends, c'est pour ça que je l'enseigne. Je dis, venez, venez, vous ne perdrez pas votre temps, vous savez. Parce que vous essayez de trouver ce que c'est que l'ouvrier, mais vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne savez pas ce que c'est que l'homme. Alors ils se regardaient là, puis au bout d'un certain temps, ils avaient dit que c'était très intéressant. Je dis bien, c'est ça la philosophie de saint Thomas. Là, je dis oui, c'est une philosophie réaliste qui part de l'expérience. Et on réfléchit sur ces expériences. Mais saint Thomas n'a pas fait de philosophie. Je suis sûr que si saint Thomas était là devant vous, il vous dirait ça. On fait la philosophie du travail, on fait la philosophie de l'amour d'amitié, on fait la philosophie de la coopération. Puis après, on va plus loin, on fait une philosophie de la matière, on fait une philosophie du vivant. Parce que si on est philosophe, c'est pour connaître l'homme. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est de connaître l'homme et arriver à connaître ce qu'est la personne humaine. Toute la philosophie première, toute la métaphysique, c'est pour connaître ce qu'est la personne humaine. Voyez là, on reprend toute la philosophie, aujourd'hui, face à la science, face aux sciences humaines, pour montrer que toutes les sciences ne peuvent rien nous dire de l'homme, au sens profond. Pourquoi? Parce que toutes ces sciences ne disent rien sur la finalité. Les mathématiques ne nous disent rien sur la finalité. Or, toutes ces sciences sont dépendantes des mathématiques. Elles se formalisent à partir des mathématiques. Elles se formalisent. Alors, pour être science, il faut être formalisé. Et ça pue comment? Parce qu'en elles-mêmes, elles ne peuvent pas se formaliser. Elles donnent des lois. Et des lois, c'est quoi? C'est pas la recherche des causes. C'est la recherche de ce qui est nécessaire pour que l'autre arrive. Donc c'est la causalité efficiente prise uniquement dans son lien de nécessité de l'antécédent à l'égard du conséquent. Et c'est uniquement ça. Alors, vous comprenez qu'il faut dépasser toutes ces sciences pour redécouvrir l'homme dans ce qu'il a de plus profond, dans ce qu'il a de plus lui-même. Et la philosophie n'a pas d'autre intérêt que d'étudier ce que c'est que l'homme. L'homme qui travaille, l'homme qui est capable d'aimer, l'homme qui fait une société, une communauté. C'est intéressant de voir comment s'est définie une communauté. L'homme qui est lié à notre univers par son corps, la philosophie du corps. L'homme qui est le vivant parmi tous les vivants. C'est le plus grand vivant que j'expérimente. Et puis l'homme en lui, quelque chose de très grand, c'est qu'il y a un appel vers son créateur. Autrement, il est un errant et un orphelin. Et le monde d'aujourd'hui est un monde d'errants et d'orphelins. Ils ont tous les défauts des orphelins. Et tous les défauts de l'errant qui fait la route. Il ne sait pas où il va. Alors quand ils entrent dans une gare, ils disent, donnez-moi un billet de train pour où? Je sais pas. Alors, est-ce que ça coûte cher ou pas cher? J'ai 100 francs, donnez-moi un billet de temps pour 100 francs. Je sais pas où il va. L'humanité est errante aujourd'hui. Quand on interroge ceux qui sont les responsables de l'humanité d'aujourd'hui, le disent Enfin, ils le disent. Ils ne savent plus où ils vont. Au point de vue économique, au point de vue intellectuel, au point de vue artistique, ils ne savent plus. L'humanité est errante. Alors, il y a des borgnes qui se croient intelligents. Ils n'ont plus qu'un œil, plus aucun relief. Donc, ils ne savent plus ce que c'est que l'ordre. Il faut des deux yeux pour savoir ce que c'est que l'ordre. Alors, en face de ce monde, nous devons faire une philosophie de l'homme, de l'âme humaine et du corps. Et une philosophie qui montre, au terme, quand on aboutit à la personne humaine, et quand on aboutit à voir que la personne humaine a sept dimensions, non pas six, mais sept. La septième, c'est que l'homme est un animal religieux. L'aspect religieux fait partie essentielle de la personne humaine. Si on ne veut plus le point de vue religieux, on ampute l'homme. Sept dimensions. Et c'est à partir de l'homme et de la personne humaine qu'il faut poser le problème. Existe-t-il une réalité plus parfaite que la personne humaine? Puisque c'est la personne humaine, la réalité la plus parfaite dont j'ai l'expérience. Et c'est vrai, j'ai l'expérience de la personne humaine. Et c'est là où j'ai l'expérience la plus parfaite de ce qu'est l'être, de ce que c'est que le vivant, de ce que c'est que le mouvement. Voyez, c'est curieux qu'on n'y ait pas pensé plus à ça. Tout le monde sait que découvrir, dévoiler la source de tout ce qui est, c'est l'effort le plus grand d'intelligence. On n'hésite pas, pour voir le lever du soleil, à faire des courses de montagne, en se levant très tôt le matin, et puis on y va à tel endroit, on va regarder le soleil qui se lève. C'est beau, je comprends, ça vaut la peine. Moi j'ai envie de regarder le lever de soleil, du vrai soleil. Le soleil, pour les anciens, c'était le symbolisme de Dieu. C'est pour ça que la très vieille et la plus vieille des traditions religieuses dit « au commencement était le soleil ». Alors le canard, évidemment, c'est curieux. Et c'était le soleil. Eh bien, c'est impressionnant pour l'intelligence humaine de découvrir vraiment par une démonstration de cinq pistes, les cinq en même temps, de découvrir le lever du soleil, l'aurore. Je ne découvre pas Dieu, mais je découvre l'aurore. Et l'intelligence est capable de découvrir l'aurore. Dieu existe. J'en ai l'évidence. Et il est mon créateur. Il est un Dieu caché au plus intime de moi-même. Et il me connaît. Il me voit. Il est plus intime à moi-même que je ne suis intime à moi-même. Vous comprenez, une fois qu'on a compris ça, tous les efforts sont rien du tout. Pour pouvoir découvrir vraiment, intellectuellement et avec le cœur. Parce que dans cette découverte de l'existence de Dieu, je deviens sage. C'est l'union de l'intelligence et de l'amour. Si vous rejetez l'intelligence, vous ne découvrirez jamais Dieu. Si vous rejetez l'amour, vous ne découvrirez jamais Dieu. Il faut cet effort ultime d'une intelligence poussée par amour pour la recherche de la vérité. et qui veut aimer celui, s'il existe, qui est source de mon être, qui est mon créateur, et qui m'a créé par pur amour. Et cet effort, c'est donc à partir de la personne humaine. J'expérimente la personne humaine dans ses 5 dimensions. Il y en a 7 en réalité. C'est curieux. Mais ça ne me trouble pas du tout. Parce que pour découvrir l'existence de Dieu, je dois me dépasser. Je dois me dépasser. Ce n'est pas dans mon moi psychologique que je découvrirai Dieu. Si noble qu'il soit. La psychologie ne peut rien me dire de Dieu, mais rien du tout, parce que Dieu n'est pas un psychologue. Le grand psychologue, c'est le démon. Le démon a perdu sa sagesse. Il se rattrape dans sa psychologie. Il est extraordinaire. Il suffit de regarder les tentations. C'est à la étudier les tentations dans toute l'écriture. Vous verrez quelle psychologie du démon. Il attaque tout le temps, chacun d'entre nous, sur le point le plus faible. C'est ce que font les psychologues. Là, vous voyez bien, au tournant, vous tombez dans le fossé. Ah oui, oui, pas très drôle. Hein. Quand on a fait l'expérience, pas la peine qu'un autre le dise. On en a déjà assez avec les coups qu'on a. Maintenant, il met ça en pleine lumière. Voilà votre faiblesse. De telle manière que vous êtes obnubilé par votre faiblesse, et puis vous y restez dedans. Ils insistent sur les fragilités. C'est très bien de faire ça, mais on ne peut insister sur les fragilités que si on les montre à travers l'amour. Il n'y en a qu'un à qui je peux ouvrir tout à fait mon cœur, Jésus, si je suis chrétien, Marie, Saint Jean. Il n'y en a qu'un. Parce qu'il m'aime. Je ne peux ouvrir mon cœur qu'à quelqu'un qui m'aime. Autrement, c'est odieux. C'est odieux. Je m'écrase devant les faiblesses. Tellement important, ça, de comprendre que la psychologie ne peut rien me dire de Dieu. Il faut la découverte de la finalité. Et la finalité, je ne la comprends parfaitement qu'en aimant. C'est à travers l'expérience de l'amour que je découvre la finalité. Et le philosophe et la métaphysique et la philosophie première montrent que l'amour, pour moi, c'est là où je suis parfaitement en acte. Quand j'aime quelqu'un, une personne humaine. Quand j'aime la vérité, mon intelligence est parfaitement elle-même quand elle aime la vérité. Et il faut cette soif d'aimer la vérité pour réaliser ce levier de philosophie première, de métaphysique, de dire que au-delà de tout ce que je constate de mon « je suis », je suis travaillant, je suis aimant, je suis lié au monde physique, je suis vivant, je suis un être conscient. À travers toutes ces expériences internes qui aboutissent à une réalité, je suis que je puis découvrir, il existe nécessairement un premier je suis. Il existe nécessairement une première personne qui est pure intelligence. Voyez le chêne de saint Thomas en critique, je le revis en philosophie et non pas en critique. Et je le revis à travers la personne humaine, Non, moi je suis. Et je sais que ce n'est que par le principe de finalité, seulement le principe de finalité, que je peux découvrir l'existence d'un être premier et d'une personne première. Alors ça, c'est très grand. Tout l'effort de faire de la philosophie prend sa signification. Oui, je dirais, la finalité de mon travail philosophique, de mon travail humain, c'est de découvrir la personne humaine. Et à partir de là, c'est un haut plateau. Et à partir de là, je peux m'élancer dans un dernier élan philosophique pour découvrir le lever du soleil. Pour découvrir que ce lever du soleil, il est tout le temps là. Découvrir la source de mon être, qui est là, que je ne vois pas. Et une fois que j'ai fait cette découverte, je comprends que ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est d'adorer celui qui est son créateur. Et quand je réfléchis sur ce que représente cet acte d'adoration, qui est ma réponse humaine à Dieu, quand je réfléchis sur cet acte d'adoration, je vois que tout est repris dans l'acte d'adoration, dans la septième dimension, que tout est présent. Et ça, c'est étonnant de voir ça. Et au fond, je vois que je découvre l'existence de Dieu d'une manière affective, volontaire, aimante, grâce à l'adoration. Mais mon adoration ne peut exister pleinement que si mon intelligence a découvert l'existence d'un être premier en se servant du principe de finalité. Oui, découverte de l'être premier, réponse affective et volontaire de l'homme qui adore. Je ne peux pas les séparer, je les distingue, mais je ne peux pas les séparer parce qu'il y a la réponse du cœur et la réponse de l'intelligence. Et la personne humaine, c'est le cœur et l'intelligence. Qu'est-ce qui structure une personnalité? C'est l'intelligence, c'est pas le cœur. C'est l'intelligence qui a cette noblesse, c'est saint Thomas qui dit ça, et qui peut structurer ma personnalité. Alors évidemment, si je ne suis pas structuré, je suis comme un ver à mille pattes. Je rampe. Le démon n'apprend qu'une seule chose, c'est à ramper comme le serpent. Et le démon dit, suivez-moi, rampez, vous verrez beaucoup mieux le monde. Et les hommes commencent à ramper. Ils ne savent plus rester debout. Ils sont horizontales. C'est bien ça, ramper, l'horizontale. Il faut voir ça avec une lumière très très vive pour comprendre que l'humanité est en train de sombrer. Alors vous comprenez le signal d'alarme du pape. Splendor Veritatis. Très bien. Alors, je ne sais pas ce que dira mon successeur et mon suivant.